Acte 3.
Ah, mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que, mot à mot, il est besoin qu'on pèse.
Je brûle de les voir.
Et l'on s'en meurt chez nous.
Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous.
Ce m'est une douceur à nul autre pareille.
Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille.
Ne faites point languir de si pressants désirs.
Dépêchez !
Faites tôt et hâtez nos plaisirs.
À notre impatience, offrez votre épigramme.
Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, a lieu de vous toucher, et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher.
Pour me le rendre cher, il suffit de son père.
Votre approbation lui peut servir de mère.
Qu'il a d'esprit!
Hola! Pourquoi donc fuyez-vous?
C'est de peur de troubler un entretien si doux.
Approchez, et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles.
Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit.
Il n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite.
Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer.
Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie.
Ah, songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie.
Bon, allons. Petit garçon, vite, de quoi s'asseoir? Voyez l'impertinent. Est-ce que l'on doit choir, après avoir appris l'équilibre des choses?
De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes, et qu'elle vient d'avoir, du point fixe écarté, ce que nous appelons centre de gravité?
Je m'en suis aperçu, madame, étant par terre.
Oh, le lourdeau!
Bien lui prend de n'être pas de verre.
Ah, de l'esprit partout!
Cela ne tarit pas.
Oh, servez-nous promptement votre aimable repas.
Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de 8 verres me semble peu de chose, et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal, le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût.
Ah, oh, je n'en doute point.
Donnons vite audience.
Je sentais mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement, et surtout quand les vers sont tournés galamment.
Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire.
Sonne.
Silence, ma nièce.
Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruelle ennemie.
Ah, oh, le joli début!
Qu'il a le tour galant!
Lui seul, des vers aisés, possède le talent.
À prudence endormie, il faut rendre les armes.
Loger son ennemi est pour moi plein de charme.
J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement.
Prêtons l'oreille au reste.
Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi.
Prudence endormie!
Loger son ennemi.
Superbement et magnifiquement.
Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement, où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie.
Ah, tout doux, laissez-moi, de grâce, respirer.
Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer.
On se sent à ses vers, jusque au fond de l'âme, couler je ne sais quoi, qui fait que l'on se pâme.
Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement est là joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit.
Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Oh, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est, à mon sentiment, un endroit impayable.
De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux.
Je suis de votre avis. Quoi qu'on dit est heureux.
Je voudrais l'avoir fait.
Il vaut toute une pièce.
Mais en comprend-on bien, comme moi, la finesse ?
Oh !
Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre, on prenne ici les intérêts. N'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas, pour moi, si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots.
Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros.
Mais quand vous avez fait ce charmant « quoi qu'on dit », avez-vous compris, vous, toute son énergie ? Songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit, et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit ?
Aïe, aïe, aïe !
J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête. Cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux.
Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tiercet, je vous prie.
Oh, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit.
Faites-la sortir, quoi qu'on dit.
Quoi qu'on dit.
De votre riche appartement.
Riche appartement.
Où cette ingrate, insolemment.
Cette ingrate de fièvre.
Attaque votre belle vie.
Votre belle vie.
Oh !
Quoi ? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang ?
Oh !
Et nuit et jour, vous faites outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains.
Oh, on n'en peut plus ?
On pâme.
On se meurt de plaisir.
De mille doux frissons, vous vous sentez saisir.
Si vous la conduisez au bain,
sans la marchander davantage,
noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains, là, noyez-la dans les bains.
Chaque pas dans vos vers rencontre un trait charmant.
Partout, on s'y promène avec ravissement.
On n'y saurait marcher que sur de belles choses.
Ce sont petits chemins, tout parsemés de roses.
Le sonnet donc vous semble...
admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de si beau.
Quoi ? Sans émotion pendant cette lecture ? Vous faites là, ma nièce, une étrange figure.
Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, ma tante. Et bel esprit, il ne l'est pas qui veut.
Peut-être que mes vers importunent madame.
Point, je n'écoute pas.
Ah, voyons l'épigramme.
Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amis.
Ah, ces titres ont toujours quelque chose de rare.
À 100 beaux traits d'esprit, leur nouveauté prépare.
L'amour si chèrement m'a vendu son lien,
oh,
qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse, où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher ma Laïs.
Oh, ma Laïs, voilà de l'érudition.
L'enveloppe est jolie et vaut un million.
Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher ma Laïs, ne dis plus qu'il est à ma rente, dis plutôt qu'il est de ma rente.
Celui-là ne s'attend point du tout.
On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût.
Ne dis plus qu'il est à ma rente. Dis plutôt qu'il est de ma rente. Oh, voilà qui se décline. Ma rente, de ma rente, à ma rente.
Oh, je ne sais du moment que je vous ai connu si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose.
Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose, à notre tour aussi nous pourrions admirer.
Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer, en ami, 8 chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté, quand de sa République il a fait le traité. Mais à l'effet entier, je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose accommodée. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger, tout tant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés.
Et faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau ou des beautés d'un poing ou d'un brocart nouveau.
Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page.
Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu, et si je rends hommage au brillant de leurs yeux, de leur esprit aussi, j'honore les lumières.
Le sexe aussi vous rend justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits, dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris, que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées, conduites en cela par des ordres meilleurs, qu'on y veut réunir ce qu'on sépare ailleurs. Mêler le beau langage et les hautes sciences, découvrir la nature en mille expériences, et sur les questions qu'on pourra proposer, faire entrer chaque secte et n'en point épouser.
Je m'attache pour l'ordre au péripatétisme.
Pour les abstractions, j'aime le platonisme.
Épicure me plaît et ses dogmes sont forts.
Je m'accommode assez pour moi des petits corps. Mais le vide à souffrir me semble difficile, et je goûte bien mieux la matière subtile.
Descartes pour l'aimant donne fort dans mon sens.
J'aime ces tourbillons.
Moi, c'est monde tombant.
Il me tarde de voir notre assemblée ouverte, et de nous signaler par quelques découvertes.
On en attend beaucoup de vos vives clartés, et pour vous la nature a peu d'obscurité.
Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une, et j'ai vu clairement des hommes dans la lune.
Je n'ai point encore vu d'hommes, comme je crois, mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois.
Nous approfondirons, ainsi que la physique, grammaire, histoire, vers, morale et politique.
La morale a des traits dont mon cœur est épris, et c'était autrefois l'amour des grands esprits. Mais aux stoïciens, je donne l'avantage, et je ne trouve rien de si beau que leur sage.
Pour la langue, on verra dans peu nos règlements, et nous y prétendons faire des remuements. Par une antipathie, ou juste ou naturelle, nous avons pris chacune une haine mortelle pour un nombre de mots, soit ou verbes ou non, que mutuellement nous nous abandonnons. Contre eux, nous préparons de mortelles sentences. Et nous devons ouvrir nos doctes conférences par les proscriptions de tous ces mots divers dont nous voulons purger et la prose et les vers.
Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, un dessein plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. Ces jouets éternels des sots de tous les temps, ces fades lieux communs de nos méchants plaisants, ces sources d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes.
Voilà certainement d'admirables projets.
Vous verrez nos statues quand ils seront tous faits.
Ils ne sauraient manquer d'être tous beaux et sages.
Nous serons par nos lois les juges des ouvrages. Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. Nous chercherons partout à trouver à redire et ne verrons que nous qui sachent bien écrire.
Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux.
C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance.
Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Hola ! Je vous ai dit, en paroles bien claires, que j'ai besoin de vous.
Mais pour quelles affaires ?
Venez, on va dans peu vous les faire savoir.
Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits.
Oh, la main qui le présente en dit assez le prix.
Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence. Il sait du grec, madame, autant qu'homme de France.
Du grec ? Oh, ciel, du grec ! Il sait du grec, ma sœur !
Oh, ma nièce, du grec !
Du grec ! Quelle douceur !
Quoi, monsieur, c'est du grec ! Oh, permettez, de grâce, que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse !
Il les baisse toutes, jusqu'à Henriette, qui le refuse.
Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec.
Oh, j'ai pour les livres grecs un merveilleux respect.
Je crains d'être fâcheux, par l'ardeur qui m'engage, à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelque docte entretien.
Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien.
Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose, et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose.
Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, au cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot à mon sens qu'un auteur qui partout va gueuser des encens, qui, des premiers venus, saisissant les oreilles, en fait le plus souvent les martyrs de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement, et d'un grec là-dessus, je suis le sentiment, qui, par un dogme exprès, défend à tous ses sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants. Sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments.
Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres.
Les Grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres.
Vous avez le tour libre et le beau choix des mots.
On voit partout chez vous l'ithos et le pathos.
Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en 12 attraits Théocrite et Virgile.
Vos odes ont un air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre Horace après vous.
Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes ?
Peut-on voir rien d'égal aux sonnets que vous faites ?
Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux ?
Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux.
Aux ballades surtout, vous êtes admirable.
Et dans les bouts rimés, je vous trouve adorable.
Si la France pouvait connaître votre prix.
Si le siècle rendait justice aux beaux esprits.
En carrosse dorée, vous iriez par les rues.
On verrait le public vous dresser des statues. C'est une ballade. Et je veux que tout net vous ment...
Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie ?
Oui, hier, il me fut lu dans une compagnie.
Vous en savez l'auteur ?
Non. Mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien.
Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable.
Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez lu, vous serez de mon goût.
Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout, et que d'un seul sonnet, peu de gens sont capables.
Me préserve le ciel d'en faire de semblables.
Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur.
Vous ?
Moi.
Je ne sais donc comment se fit l'affaire.
C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire.
Faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait. Bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma ballade.
La ballade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode. Elle sent son vieux temps.
La ballade, pourtant, charme beaucoup de gens.
Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise.
Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise.
Elle a, pour les pédants, de merveilleux appâts.
Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas.
Vous donnez sottement vos qualités aux autres.
Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres.
Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier.
Allez, rimeur de balles, opprobre du métier.
Allez, fripier d'écrit, impudent plagiaire.
Allez, cuistre.
Hé, messieurs, que prétendez-vous faire ?
Va, va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins.
Va, va t'en faire amende honorable au Parnasse, d'avoir fait à tes vers estropier Horace.
Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit.
Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit.
Ma gloire est établie en vain, tu la déchires.
Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des satires.
Je t'y renvoie aussi.
J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère, parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix, et l'on t'y voit partout être en butte à ses traits.
C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler, et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire, sur qui tous ses efforts lui semblent nécessaires, et ses coups contre moi redoublés en tout lieu montrent qu'il ne se croit jamais victorieux.
Ma plume t'apprendra quel homme je puis être.
Et la mienne saura te faire voir ton maître.
Je te défie en vers, prose, grec et latin.
Eh bien, nous nous verrons seul à seul chez Barbin.
À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer.
À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir.
C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément, et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop aîner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête, et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots.
Oui, mais j'y suis blessée, et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment, et qui n'est attachée qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances. Et la pensée, enfin, où mes vœux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine.
Moi, ma mère?
Oui, vous. Faites la sotte un peu.
Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est un hymen qui fait votre établissement.
Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame. Et cet hymen dont je vois qu'on m'honore me met...
Tout beau, monsieur. Il n'est pas fait encore. Ne vous pressez pas tant.
Comme vous répondez, savez-vous bien que si... Oh, suffit. Vous m'entendez. Elle se rendra sage. Allons, laissons-la faire.
On voit briller pour vous les soins de notre mère, et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux.
Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous?
C'est à vous, non à moi, que sa main est donnée.
Je vous le cède tout, comme à ma sœur aînée.
Si l'hymen, comme à vous, me paraissait charmant, j'accepterai votre offre avec ravissement.
Si j'avais, comme vous, les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête.
Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain par votre résistance.
Allons, ma fille, il faut approuver mon dessein. Ôtez ce gant. Touchez à monsieur dans la main et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme.
De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands.
Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos vœux une entière puissance.
Une mère a sa part à notre obéissance.
Qu'est-ce à dire?
Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord. Et c'est un autre époux.
Taisez-vous, Péronnelle. Allez philosopher tout le sou avec elle, et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée, et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons, vite.
Fort bien, vous faites des merveilles.
Quel transport, quelle joie! Ah, que mon sort est doux!
Allons, prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Ah, les douces caresses! Tenez, mon cœur s'émeut à toutes ces tendresses. Cela régaillardit tout à fait mes vieux jours, et je me ressouviens de mes jeunes amours.